tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec le monde sur e-radio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours. Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrypte tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur e-radio avec Mam Abdougay Kassé.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité constamment renouvelée au programme d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. En cet après-midi du mercredi 12 juin 2024, votre rendez-vous géopolitique hebdomadaire reçoit pour la deuxième fois en un peu plus d'un an Dr Yoradia, qui a entre-temps changé de position et de fonction. Bonjour Dr Yoradia.
Bonjour Mme Blougri.
Vous êtes politologue, ancien ministre porte-parole du président de la République Macky Sall et ancien coordinateur de la communication de la présidence de la République. Petite curiosité, après tant d'années au service exclusif de l'État, quel est le sentiment qui vous anime après vous être retiré du cœur du pouvoir maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, on peut dire l'opposition?
Bonjour, mais avant tout, je voudrais vous remercier pour les efforts que vous faites pour élever le débat. La démocratie se construit dans le débat et puis vous permettez au Sénégal d'avoir un débat important, stratégique, parce que vous posez des questions de politique extérieure et des questions de géopolitique. Le Sénégal n'est pas une petite cité sur la lune, nous sommes dans le monde et merci des efforts que vous faites pour permettre aux Sénégalais d'être au temps du monde avec votre émission. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, enfin, je retrouve mon milieu naturel parce que pour moi, l'État n'était qu'une petite parenthèse. À un certain moment de ma vie, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'aller aider l'État du Sénégal, d'aller contribuer pour maintenir l'État, pour sauver la République et la démocratie. Aujourd'hui, l'État a été sauvé de l'insurrection, la République est debout et la démocratie fonctionne normalement. Donc, comme l'avait fait Cincinnatus, je suis retourné à mon milieu naturel qui est le milieu du secteur privé. J'ai passé l'essentiel de ma carrière et de ma vie dans le secteur privé. Donc, pour moi, l'État n'était qu'une parenthèse. Comme on dit dans l'armée, faire ma période légale, aider l'État à se défendre. Aujourd'hui, ceci étant fait, je suis retourné dans mon milieu naturel qui est le secteur privé.
Avez-vous des nouvelles de l'ex-président Macky Sall, dont vous étiez l'un des plus proches collaborateurs?
Mais on se parle tous les jours. Mes relations avec Macky Sall datent de 1993. Malheureusement, j'ai eu à partager la même chambre que son frère, son petit frère, Aliou Sall, à l'université quand j'étais au CESTI en première année. Donc mes relations avec Macky Sall sont fort anciennes et sont très solides et donc nous ne sommes pas conjoncturels. On se parle tous les jours.
Et quel regard porte-t-il maintenant qu'il n'est plus aux affaires sur l'état du pays?
Non, mais il a aujourd'hui le sentiment du devoir accompli. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le Sénégal? Aujourd'hui, le Sénégal est cité partout dans le monde comme étant un exemple de démocratie, une exception démocratique. Et j'ai dit récemment que le Sénégal a trop d'exploits démocratiques. Maintenant, pour notre pays, il nous faut des exploits économiques. Et l'exploit économique aussi, nous le devons aujourd'hui à Macky Sall. Pour coller à l'actualité, le Sénégal a eu hier son premier baril de pétrole. Et donc, si le Sénégal a eu son premier baril de pétrole, donc moi je crois à la bénédiction du pétrole parce que nous avons eu la chance, quand nous avons découvert les ressources pétrolières, d'avoir à la tête du Sénégal quelqu'un dont le pétrole est le métier. Un ingénieur pétrolier Macky Sall qui a fait IST ici à Dakar, qui a fait l'étude française du pétrole. Donc c'est lui qui a permis, c'est lui qui a fabriqué l'écosystème qui nous permet aujourd'hui d'avoir le premier baril de pétrole. En termes de bénédiction et de malédiction du pétrole, et je dis souvent en tant que politologue, le pétrole n'est pas une bénédiction ni une malédiction, mais le pétrole ne fait qu'aggraver des causes endogènes. Dans beaucoup de pays, quand on découvre du pétrole et qu'il y a des problèmes, c'est parce que le pétrole a aggravé des courants de jeu. Mais ici, nous avons eu la chance d'avoir Macky Sall à la tête de l'État, dont seul métier, et qui a créé un écosystème avec aujourd'hui l'INPG, l'Institut national pour le pétrole et le gaz, et beaucoup de... qui a montré la voie, et puis grâce à cette armée de fonctionnaires que les ignorants appellent dédaigneusement le système, et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notre premier baril de pétrole. Donc, hommage doit être rendu à Macky Sall pour ce travail remarquable. Et c'est ça qui montre la qualité d'homme d'État de Macky Sall. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas entendu sur le pétrole? De la calomnie, de la méchanceté, de la diffamation. Il y avait des gens qui disaient que oui, il y avait des bateaux qui venaient la nuit prendre le pétrole. Tout ça s'est réglé. Donc Macky Sall a enduré toutes les calomnies, toutes les méchancetés, toutes les diffamations sur le pétrole et n'a pas assisté au premier baril. Mais aujourd'hui, là où il se trouve, quelque part, pour te donner un scoop, quelque part dans les Caraïbes, il doit être...
Il est en vacances.
Non, il n'est pas en vacances, il continue de travailler inlassablement pour le continent. Et je puis vous dire qu'il est invité spécial des réunions d'Afrique Exim Bank, parce que le Sénégal a besoin de lui, le monde a encore besoin de lui. Donc c'est ça un homme d'État. Il a enduré stoïquement toutes les méchancetés, toutes les attaques, toutes les diffamations, tous les dénigrements sur le pétrole. Et aujourd'hui, il n'a pas assisté au premier baril. C'est pourquoi hommage lui doit être rendu. Et je pense que aussi les nouvelles autorités sont maladroites. Et je pense qu'un premier baril, ça se fête, ça se célèbre. Mais malheureusement, les nouvelles autorités pensent qu'en célébrant le premier baril, ils seront obligés de rendre hommage à Macky Sall, d'où ce silence un peu gênant auquel nous assistons. Donc j'ai dit aux nouvelles autorités, célébrons. Nous, on ne boit pas de champagne, donc sablons le Bissa, parce que c'est une excellente nouvelle que le Sénégal ait son premier baril de pétrole. Et le célébrer, c'est rendre hommage à Macky Sall. Donc ne pas vouloir rendre hommage à Macky Sall ne doit pas empêcher les nouvelles autorités de célébrer notre premier baril de pétrole. Donc on le célèbre et on rend hommage à Macky Sall.
Vous lancez justement une invite aux nouvelles autorités et dans ce numéro de diplomatie, nous allons effectivement passer au peigne fin tous les premiers actes donc de l'ère Bassirou Diomaye Faye, plus jeune président du Sénégal, élu à 44 ans au soir du 24 mars dernier. Nous aborderons aussi l'actualité dans la sous-région avec la situation de la liberté de la presse et de la démocratie de façon générale en Guinée, au Mali, mais également au Burkina Faso, tous ces pays sous régime militaire depuis quelques années maintenant, où les libertés fondamentales et individuelles sont bâillonnées avec la restriction de l'espace politique et du signal de certains médias. Alors, Dr Yoradia, Pastef et ses alliés au pouvoir veulent imprimer leur propre marque dans le fonctionnement de la République et de ses institutions en promouvant la rupture. La rupture d'abord à travers la diplomatie qui nous intéresse aujourd'hui avec un changement dans la dénomination du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, devenu ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Sur la forme comme dans le fond, quelle lecture vous en faites?
La politique extérieure, comme on dit, c'est le domaine réservé du président de la République. Oui. L'une des dernières sorties du président Macky Sall, c'était la Mauritanie. Et moi, je me suis réjoui que la première sortie du président Bassirou Diomaye Faye soit la Mauritanie. Parce que c'est extrêmement important. Parce que j'avais fait un papier où je disais, en termes de diplomatie, il y avait l'avant-garde. C'est quoi l'avant-garde? L'avant-garde, c'est aujourd'hui, on a fêté notre premier baril de pétrole hier. La Mauritanie et le Sénégal se partagent le pétrole et le gaz. Et en sciences politiques, on dit deux pays qui font du business se font rarement la guerre. Aujourd'hui, la Mauritanie est devenue notre plus grande alliée. Donc, je me réjouis que sur ce plan, que le président Bassirou Diomaye Faye soit sur les pas de Macky Sall. Il continue l'œuvre de Macky Sall. Il emprunte le pont que le Macky Sall a jeté sur le fleuve Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie. Maintenant, pour sa deuxième sortie aussi, je salue sa deuxième sortie, qui est la Gambie. Pourquoi la Gambie? On dit aussi en sciences politiques que les démocraties ne se font pas la guerre. Vous avez vu, depuis que Yahya Jammeh a été chassé du pouvoir grâce à Macky Sall, la Gambie et le Sénégal, les relations sont parfaites. Donc c'est ça aujourd'hui. Et à mon avis, c'est ça les 12 ans de Macky Sall, pendant qu'il a été président du Sénégal. Ça veut dire que essayer d'établir un pont économique avec les voisins, essayer aussi d'établir un pont de la démocratie, les deux piliers pour les relations internationales. C'est pourquoi on est passé pendant les 12 ans de Macky Sall d'un cercle de feu, parce que le Sénégal a eu beaucoup de problèmes avec ses voisins. On a failli faire la guerre à la Mauritanie, vous êtes de la région du fleuve, on a eu des problèmes avec la Gambie. Fodekaba en Fodekaba 2, on a eu des avec la Guinée-Bissau, opération Gabou, opération Gabou, les rivalités entre Sékou Touré et Senghor sont légendaires. Mais quand on a vu ces 12 ans-là, et puis aujourd'hui, on est passé du cercle de femmes au cercle de prospérité, grâce à deux choses, la démocratisation. Le Sénégal a aidé la Gambie et la Guinée-Bissau à redevenir démocratique. Avec la Mauritanie, on se partage le gaz, ce qui fait que nous avons passé. Et je me réjouis que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur ce plan-là, ait pris la sage décision de continuer l'œuvre de Macky Sall. Parce que la diplomatie, c'est une continuité. Ce qui parle de rupture, enfin, à mon avis, enfin, c'est, soit c'est des amateurs ou des ignorants. J'ai appris dans la presse qu'au ministère des Affaires étrangères, il y avait un séminaire sur le panafricanisme de gauche. Et j'ai été choqué. Moi qui connais la diplomatie sénégalaise, moi qui connais la politique extérieure du Sénégal, j'ai été choqué d'apprendre que le nouveau pouvoir a convié des diplomates et a mis aux tribunes Ndeng Diembe Touré. Et je me demande quelle est la qualité de ce monsieur-là pour pouvoir parler de politique extérieure aux diplomates chevreux du Sénégal. J'ai appris aussi dans la presse qu'il y avait Pierre Sané. La diplomatie n'est pas une affaire d'ONG. La diplomatie est une affaire régalienne. Et d'alternance en alternance, de régime en régime, les diplomates du Sénégal font un excellent travail. D'ailleurs, dans la politique extérieure américaine, on résume souvent, en disant la politique extérieure américaine, se résume à un conflit entre deux juifs allemands réfugiés aux États-Unis. Le premier, Leo Strauss. Et Leo Strauss disait que le fondement de la politique extérieure américaine doit être la pureté morale. Les États-Unis doivent propager la démocratie, la liberté partout dans le monde. L'autre, Hans Morgenthau, disait que la politique extérieure des États-Unis doit se reposer sur la défense de l'intérêt national. On n'a pas besoin de panafricanisme de gauche, on n'a pas besoin d'idéologie au ministère des Affaires étrangères. Et les diplomates sénégalais que je connais, les ambassadeurs que je connais sont suffisamment outillés pour savoir l'intérêt national du Sénégal. Donc c'est pourquoi je me réjouis que le président Bassirou Diomaye Faye n'ait pas suivi enfin, cette idéologie de panafricanisme de gauche qui l'invitait, comme le veut son premier ministre, à commencer ses premières sorties avec les états de l'AES. Pour l'AES, il y a une muraille de Chine entre nous. Oui. Même s'ils sont de la même génération que notre président de la République, la muraille, c'est que notre président de la République démocratiquement élu, alors que eux, c'est des putschistes qui légitiment leur forfaiture par l'idéologie.
Nous allons en parler tout à l'heure. Les premiers actes posés par le chef de l'État nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, tranchent avec ceux de ses prédécesseurs à la magistrature suprême. Contrairement au président Diouf, Wade et Sall, lui a préféré réserver ses toutes premières sorties aux voisins immédiats du Sénégal, que sont la Mauritanie, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée, au lieu de partir au lendemain de son élection en France. Quelle est votre analyse sur cela?
Non, mais je pense que la première sortie du président Macky Sall, c'était la Gambie. Pour Abdou Diouf, je ne connais pas la première sortie, mais au moins pour ce que j'en connais, pour la première sortie du président Macky Sall, il était parti rendre visite à Yahya Diame, qui n'avait pas compris le message. Parce qu'à l'époque, quand il venait d'arriver, il y avait encore des soldats sénégalais qui avaient été capturés par l'MFDC. Donc il était parti parler à Yahya Diame de la façon du bon voisinage. Apparemment, Yahya Diame n'avait pas compris. Et moi, je pense que cette politique de bois, ça aussi, c'est très important. Parce qu'il faut quand on interroge les diplomates, c'est le président Macky Sall qui a décidé d'élever les ambassades du voisinage à des niveaux supérieurs. Pendant très longtemps, les meilleurs de nos diplomates, on les amenait dans les capitales occidentales. Mais aujourd'hui, quand on voit les diplomates de la sous-région, aujourd'hui, on essaie d'amener nos meilleurs diplomates dans la sous-région. Parce que pour moi, la politique de bon voisinage, la politique de la sous-région, la politique diplomate de la sous-région est l'une des politiques les plus importantes. C'est pourquoi le président Macky Sall a décidé, en termes de politique diplomatique, d'élever les ambassades de Nouakchott, les ambassades de Bamako, de Gambie, et d'élever à niveau supérieur, et d'y mettre des diplomates chevronnés. Sur ce plan-là, le bilan des 12 ans de Macky Sall est, à mon avis, très très positif, parce qu'on est passé d'un cercle de feu à un cercle de développement et de prospérité. Et j'en veux pour preuve, les deux meilleurs exemples, ce sont les deux ponts, le pont de Farafeni et le pont de Rosso. Pendant plus de 40 ans, le Sénégal a cherché à faire sur le pont du fleuve Gambie. On n'a jamais réussi à le faire. Ouais. On a toujours cherché à faire un pont sur le fleuve Sénégal. On n'a jamais réussi à le faire. C'est sous le magistère de Macky Sall qu'on a réussi à avoir ces deux ponts. On a tous appris à l'école primaire que le Sénégal est la porte de l'Afrique, mais j'ai toujours ajouté que le Sénégal était l'un des pays les plus enclavés. Mais parce qu'on était fermé. Aujourd'hui, avec le pont de Rosso, avec le pont de Farafeni, le Sénégal joue naturellement son rôle de porte du continent. Maintenant, pour ce faire, il a fallu substituer la méfiance et à la confiance dans nos relations avec les voisins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe très bien avec la Mauritanie, ça se passe très bien avec la Gambie, ça se passe très bien avec les deux Guinées, et ça se passe aussi très bien avec le Mali, parce que la confiance est revenue. Les murs de la méfiance ont été abattus pour être remplacés par les ponts de la confiance. Et je me réjouis que le président Bassirou Diomaye Faye, en allant en Mauritanie, en allant en Gambie, perpétue aujourd'hui l'œuvre de Macky Sall. Parce que c'est ça, l'État est une continuité. La République est une continuité. Et c'est pourquoi il y a certains secteurs en termes de sécurité, en termes de défense, en termes de diplomatie. Et je pense qu'il faut plus de continuité que de rupture.
Alors très bien. Aujourd'hui, pensez-vous que le Sénégal peut s'aventurer à faire des réformes sur le franc CFA, voire battre sa propre monnaie, comme l'avaient préconisé les nouvelles autorités lors de la récente campagne électorale? On parle ici de questions de souveraineté.
Non, mais pour moi, je donne souvent l'exemple. Aujourd'hui, la bataille du souverainisme, elle est économique. Dans les années 60, on parlait du péril jaune. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez à Paris, le métro parisien parle chinois. Parce que les Chinois se sont enrichis. Aujourd'hui, le racisme est devenu un phénomène économique. Le débat sur le souverainisme est un débat aujourd'hui économique. Qui parle de souverainisme à Dubaï? Mais aujourd'hui, les gens qui portent le souverainisme sont des gens mal placés. On ne veut pas un souverainisme des coups d'État. On ne veut pas un panafricanisme de coups d'État. Les gens qui agitent le souverainisme, le panafricanisme, ce sont de vulgaires putschistes qui cherchent à légitimer leur forfaiture par l'idéologie. Aujourd'hui, le Sénégal est légitime pour porter le débat sur le panafricanisme. Et comme je dis, nous sommes tous des panafricanistes. Mais nous voulons un panafricanisme démocratique. On ne veut pas un panafricanisme de putschistes. Le Sénégal peut porter le débat sur la souveraineté. Aujourd'hui, on a du pétrole et du gaz. Grâce au travail de l'ancien régime, comme on dit, le Sénégal a un taux de croissance de 8%. Oui. Et va avoir l'année
mais
prochaine un taux de croissance de 10%.
Mais c'est une croissance extravertie qui ne profite pas aux populations.
Mais ça, c'est un discours idéologique. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la croissance. Comparons le Sénégal avec les voisins. Comparons le Sénégal avec les voisins. Notre voisin malien le plus proche a des problèmes d'énergie. Depuis quand le Sénégal n'est pas confronté à des problèmes d'énergie? Je donne un exemple. Moi, je ne suis pas monétariste. Je ne vais pas m'aventurer sur la monnaie. Mais je donne un exemple concret.
Oui.
Le Sénégal est entouré de pays qui ont leur propre monnaie.
Oui.
Comme disait Descartes.
Mais qui utilisent le franc CFA comme devise.
Voilà, le bon sens, comme disait Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Est-ce que vous avez vu des Dalassi à Dakar?
Non.
Est-ce que vous avez vu des francs guinéens à Dakar? Mais par contre, quand vous allez, est-ce que vous avez des Ougouya à Dakar? Mais par contre, quand vous allez dans ces pays-là, quand vous donnez le CFA, et puis les gens l'acceptent. Et là, même les gens vous le demandent. Maintenant, comme je dis, le problème de la monnaie, si c'est le nom qui gêne, on n'a qu'à changer le monnaie. On n'a qu'à changer le nom. Mais une monnaie, c'est pour être convertible. À partir du moment où le CFA est reconnu dans la sous-région comme étant une bonne monnaie, maintenant, il y a un débat idéologique sur le CFA. Maintenant, si c'est le nom qui gêne, on n'a qu'à changer le nom. Et ça, c'est une question pratique. Ça dit que moi, je n'ai pas encore vu à Dakar le Dalassi, le Ougouya ou bien le franc guinéen sur le Dakar. Et par contre, quand vous allez dans ces pays-là, ça montre que notre monnaie est
bien appréciée. Les devises étrangères comme le franc CFA, l'euro ou encore le dollar.
C'est un débat idéologique. Quand aujourd'hui, quand tout le monde sait que l'euro, c'est la marque allemand. Mais tu ne verras pas les Italiens protester, les Français. Non, voilà. Sur ces questions-là, c'est des questions économiques. Comme je dis, il faut être pragmatique. Moi, je ne suis pas monétariste, mais j'ai du bon sens. Je n'ai pas encore vu. Et puis, l'autre exemple historique, on a vu des pays qui étaient dans notre zone monétaire créer leur propre monnaie et revenir. On a vu des pays qui n'étaient pas dans notre zone monétaire vouloir, comme la Guinée-Bissau, vouloir intégrer notre zone monétaire. Donc, quand ne serait-ce que sur ces questions-là, et je me dis de façon pratique et une question de bon sens, maintenant, si c'est le nom qui gêne parce que ça renvoie à la colonisation, on n'a qu'à changer le nom.
Donc, pour vous, la chose est claire, l'ère des échappées solitaires en termes de monnaie est révolue.
Mais ça n'a pas de sens. La question, elle est économique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, le seul risque que le Sénégal risque de perdre avec les autorités, c'est une perte de temps.
Okay.
Une perte de temps due à deux choses, due au rentier de la tension et due à des questions idéologiques obsolètes. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que des pays de la sous-région qui ont leur propre monnaie soient mieux lotis que le Sénégal. Aujourd'hui, le débat pour le Sénégal, le candidat Amadou Ba le disait très bien pendant la campagne. Il disait que quand Macky Sall promettait l'émergence en 2035, on n'avait que des arachides et des cacahuètes. Aujourd'hui, quand on a le pétrole et du gaz, on peut gagner 5 ans. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Le Sénégal a beaucoup d'exploits démocratiques. Maintenant, il nous faut l'exploit économique. Maintenant, pour avoir des exploits économiques, il faut que les gens se focalisent sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est l'économie et la croissance.
La transformation structurelle de l'économie.
La transformation structurelle de l'économie qui commence par le fait d'arrêter que 90% du cerveau de notre classe politique composée des gens brillants soit piraté par le code électoral, des affiches sur la justice. À mon avis, ces questions-là, c'est une perte de temps. Le Sénégal est la reste d'institutions parfaites qui n'existe nulle part. Comme j'aime le rappeler, l'Angleterre, qui a des nations millénaires archaïques, a été à l'origine de la révolution industrielle par la France. Le Japon a été à l'origine de la révolution technologique et a des institutions qui datent de la révolution de Meiji. Donc il n'y a pas de lien direct entre moderniser des institutions et efficacité économique. Ce dont le Sénégal a besoin, c'est efficacité économique. Et c'est pourquoi j'avais fait un papier pour dire qu'il ne faut pas que le président de la République soit prisonnier des rentiers de la tension. Et il est déjà tombé dans le piège avec les affaires de la justice, qui ne servent absolument à rien, une perte de temps. Et après, les gens vont lui encore faire perdre du temps sur la question électorale, sur la monnaie. En attendant d'avoir conscience sur la monnaie, il faut qu'on se focalise sur la question économique.
Très bien. En plus de la Mauritanie, de la Guinée, des deux Guinées, de la Gambie et du Cap-Vert, le président Bassirou Diomaye Faye a aussi effectué des visites de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, avant de se rendre dernièrement au Mali et au Burkina Faso, deux pays qui sont en conflit ouvert avec la CEDEAO, dont le Sénégal est un pionnier pour sa démocratie, mais également pour son exemplarité en termes de démocratie. Comment analysez-vous son déplacement à Bamako et Ouagadougou, où les sensibilités dans toute la société crie à l'injustice et à la chasse aux sorcières.
Et c'est ça qui est intéressant en termes d'analyse. Le président de la République, naturellement, c'est l'État. Ce que les ignorants appellent dédaigneusement le système, et c'est ça qui tient le pays. Le président de la République, quand il est arrivé, il est parti en Mauritanie. Il est parti en Mauritanie parce que probablement au niveau de la cellule diplomatique, des affaires étrangères, nos brillants diplomates l'ont orienté vers la Mauritanie. Par contre, son premier ministre qui doit cesser de se mêler de la politique extérieure du Sénégal, lui, il est fasciné par les États de l'AES. Et donc, c'est ça, c'est cette dichotomie-là qu'il faut régler. Quand tu vois les États de l'AES, Mali, Burkina,
donc pour vous, dans ces pays-là,
mais il y a une confusion qui n'a pas lieu d'être. La diplomatie, la politique de la politique de défense, c'est des domaines propres du président de la République. Le premier ministre n'a pas à se mêler d'histoire de base, le premier ministre n'a pas à se mêler d'histoire de politique extérieure. Et quand on voit l'économie, Monsieur le Premier ministre, lui, il est fasciné par les états de l'AES.
Pourquoi dites-vous cela?
Non, mais parce qu'il avait dit qu'il allait vers une tournée vers les états de l'AES. Pas les états de
l'AES. Au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.
Mais c'est ça qui est intéressant. Oui. Et quand vous allez dans ces états-là, les élites de ce pays, les élites de ces trois pays, les peuples de ces trois pays-là, prennent le Sénégal comme modèle. Ils veulent un modèle comme le Sénégal, avoir une démocratie qui fonctionne. Parce que le Sénégal est l'antithèse de la théorie que leur vendent les putschistes. Donc quand vous allez dans ces pays-là, les élites de ces pays-là, les populations de ces pays veulent être comme le Sénégal. Mais malheureusement, nous, notre premier ministre rêve d'être comme ces pays-là. Et c'est pourquoi je me réjouis que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ait choisi l'avant-garde. C'est quoi l'avant-garde? C'est la Mauritanie, pétrole et gaz, business, la Gambie, la démocratie. Donc c'est ça qui est important. Ces pays-là, le président de la République est parti en Mauritanie, excellent. Il est parti en Gambie, excellent, démocratie. Il est parti en Côte d'Ivoire, excellent. Parce que les deux poumons de l'UEMOA, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, moi. C'est ce que j'appelle l'avant-garde. C'est quoi l'avant-garde? C'est la question économique et pas la question idéologique. Nous, on ne veut pas qu'on nous prenne en référence comme des putschistes et des idéologistes. Par exemple, quand vous voyez le discours panafricaniste, à mon avis, le discours panafricaniste, pour avoir des chances de réussir, ne peut être que démocratique et économique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est ça le quiproquo. Burkina, Mali, Niger, Guinée, les populations de ces pays-là et les élites de ces pays rêvent d'être comme nous. Donc le Sénégal est un modèle, le Sénégal est une exception. Ces gens-là rêvent d'être comme nous. Et malheureusement, M. le Premier ministre du Sénégal rêve de nous rabaisser au niveau des États du Sahel. Ça veut dire que des États avec des régimes militaires, des coups d'État et puis des régimes d'exception. Le Sénégal est une société ouverte.
Oui.
Alors que dans ces pays-là, ce sont des sociétés fermées parce que c'est des régimes militaires tyranniques.
Mais en se rendant à Bamako et à Ouagadougou, est-ce que la diplomatie sénégalaise n'est-elle pas en train de cautionner ce qui se passe là-bas?
Non.
En termes de restriction des libertés, mais également d'atteinte à la liberté de presse?
Non, mais ce qui aurait été grave, c'est qu'il commence par ces pays-là. S'il avait commencé par ces pays-là, ça aurait été un signal. Maintenant, qu'il n'a pas commencé par ces pays-là, parce que comme dit le vieux proverbe arabe, « Ajar khabladar, warrafi khabladar », ça veut dire qu'il faut choisir le compagnon avant le voyage et le voisin avant la maison. Maintenant, on ne peut pas dire que le Sénégal est un îlot de démocratie, une exception démocratique. On va déménager. Le Sénégal ne peut pas déménager. Le Mali sera éternellement notre voisin. La Guinée sera éternellement notre voisin. Mais donc, le discours du président de la République, parce que ces populations-là et ces élites rêvent d'être comme le Sénégal, le discours du président de la République, Diomaye Faye, doit être de dire à ces pays-là, la démocratie fonctionne, il faut faire confiance à la démocratie, il faut faire confiance aux, faut faire confiance aux institutions. Ça ne peut être que le rôle du Sénégal. En attendant ce que j'appelle dans mes écrits la deuxième vague démocratique. Mais c'est ça le rôle du Sénégal aujourd'hui. C'est de leur dire que vous avez quitté la CEDEAO, il faut revenir à la CEDEAO. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, on va vous aider à faire un certain nombre d'efforts. Oui. Parce que quand vous êtes dans une union, dans une fédération, il y a un minimum de règles.
Oui.
Et parmi les règles de la CEDEAO, il faut que les régimes soient démocratiques. Donc le Sénégal peut prêcher la bonne parole parce que sur ces questions-là,
oui,
la voix du Sénégal est audible. Le Sénégal est crédible pour parler de démocratie, le Sénégal est audible pour parler de liberté, le Sénégal est audible pour parler d'économie. Malheureusement, et puis on ne peut pas, comme le veut notre Premier ministre, prendre les valeurs de ces putschistes-là comme étant des valeurs de référence. Parce que pour qu'il y ait... Parce que quand tu vois ce qu'on appelle l'état des États du Sahel, c'est quoi le dénominateur commun? C'est des régimes militaires et putschistes. Mais nous, on n'est pas dans des régimes militaires et putschistes. Alors que la vocation du Sénégal, c'est d'être la tête de file du mouvement démocratique en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général.
Oui.
Et si le président Diomaye Faye y va, c'est de dire à ces gens-là, on peut faire confiance à la démocratie, on peut vous donner encore du temps pour que vous fassiez une transition, mais il faut impérativement venir à la démocratie. Donc le rôle et le devoir du Sénégal, c'est d'élever ces pays-là à son standard démocratique, pas se rabaisser à leur niveau comme le souhaite notre Premier ministre.
En Guinée, à côté, le gouvernement de transition a retiré la licence de 4 radios et une télévision appartenant à 3 grands groupes de médias, Adafo Média, auquel appartient Espace TV, mais aussi Fréquence Média et Dioma Média. Il faut le dire, ce sont les médias les plus suivis dans ce pays. Pour vous, qu'est-ce qui explique cette atteinte à la liberté de presse et celle d'informer?
Mais parce que nous ne sommes pas dans une démocratie. La démocratie est consubstantielle à la liberté de presse. On dit en sciences politiques, la seule vertu du citoyen dans une démocratie, c'est le silence. Les dictatures sont silencieuses. Je ne sais pas si vous est arrivé, de façon anecdotique, de traverser la Gambie sous Yahya Jammé. Et quand vous êtes dans la voiture, les Sénégalais, ils bavardent. Mais dès qu'ils arrivent à la frontière, à Kerayib, dès qu'ils voient le Gambie, tout le monde se tait. Automatiquement, tout le monde se tait. Et pendant toute la traversée de la Gambie, personne ne parle. Mais dès qu'on se rapproche de Senoba, c'est comme si les gens étaient en sorte de traverser du désert et qu'ils voient l'oasis.
Oui.
Et là, le bavardage reprend. Oui. Parce que la démocratie est consubstantielle à la liberté de presse. Et les dictatures, c'est quoi une dictature en termes de sciences politiques? La dictature, c'est le monopole de deux choses. C'est le monopole de la violence et le monopole de l'information pour créer la peur. Donc un dictateur ne peut pas s'embarrasser d'avoir à ses côtés une presse libre et privée. Les dictatures n'aiment pas deux choses. La presse et l'humour. Les dictatures n'aiment pas la presse et l'humour. Il y avait quelqu'un sur Ablaï Wade qui disait, oui, Ablaï Wade était un dictateur. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Aussi longtemps que Koucha va continuer à parler de Viviano et de Sindiel Iwad, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une dictature. Les dictatures n'aiment pas l'humour, les dictatures n'aiment pas la liberté de presse. Et quand tu vois Ben Ali est tombé, un exemple concret, le printemps arabe est né en Tunisie, Ben Ali est tombé parce qu'il ne contrôle plus l'information. Aussi longtemps que c'était des journaux écrits, aussi longtemps que c'était des télés et des radios, tu pouvais couper le signal. mais tu ne peux pas couper le signal de Facebook, tu ne peux pas couper le signal de YouTube. Et c'est pourquoi, enfin, cette volonté du régime guinéen de vouloir fermer, à mon avis, c'est un combat perdu d'avance. Parce que dans le monde actuel, aujourd'hui, la censure n'a plus aucun intérêt. Et un de mes profs à Paris, à Sciences Po Paris, Bertrand Barry, disait que le charme de la mondialisation, c'est trois flux que personne ne peut contrôler. Les flux d'informations. Aujourd'hui, en Guinée, le gars peut fermer les radios et les télé, mais ça n'empêchera pas aux Guinéens qui ont une connexion de pouvoir accéder à YouTube et, oui, puis, et puis de s'informer.
À travers VPN.
Donc, oui. Barry disait que la mondialisation, c'est trois flux. Les flux d'informations qu'aucun État ne peut contrôler. Les flux humains qu'aucun État ne peut contrôler. Aujourd'hui, jusqu'à présent, moi je suis de Thierry-sur-Mer, depuis on part à Thierry-sur-Mer pour aller en Espagne, malgré tous les efforts que fait l'Union européenne. Donc vous avez les flux d'informations, vous avez les flux humains et vous avez les flux financiers. C'est ça aujourd'hui qui rend anachronique la volonté du régime guinéen de vouloir censurer et de contrôler l'information.
Avant que cette mesure radicale ne soit prise, nous avons assisté à des brouillages d'émetteurs de ces organes de presse en question, mais également à la restriction de l'accès à Internet. Selon vous, ces ajustements du régime militaire, du CNRD au pouvoir en Guinée, sont-ils assimilables à ce que certains appel de traitement patriotique de l'information qui voudrait que l'information, son traitement, en tout cas, soit l'apanage des militaires au pouvoir.
Mais on ne réinvente pas la roue. Le traitement patriotique de l'information s'appelle la propagande.
C'est une autre forme de la nommer.
Non, c'est une autre forme de propagande et c'est une autre forme de censure. Oui. La démocratie, c'est l'opinion publique. Et l'opinion publique, comme disaient les Romains, vox populi, vox dei. Il faut faire confiance aux citoyens. Les gens sont mûrs, les gens sont instruits pour distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et puis la démocratie est une affaire d'opinion. Donc le traitement patriotique, c'est une forme de propagande. Et quand on dit propagande, ça veut dire que c'est une forme de, comme je disais tantôt, une forme de monopole de l'information. Et c'est pourquoi on dit la liberté de presse est consubstantielle à la démocratie. Oui. S'il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de démocratie. Et c'est pourquoi j'aimerais bien les gens qui ont toujours dépeint le Sénégal de Macky Sall comme une dictature féroce digne de Kevin Soum, de comparer. Aujourd'hui on a des éléments de comparaison en termes de liberté de presse, en termes de démocratisation. Mais c'est un combat vain. Par exemple, quand on s'intéresse à l'histoire dans la longue durée, aujourd'hui nous avons une première vague démocratique en Afrique. C'était né à partir de la boule des conférences nationales. Ça, c'était la première vague. Mais dans la première vague, les causes exogène. Mitterrand qui dit aux dirigeants africains, pendant la guerre froide, enfin je résume, je caricature un peu, vous aviez un enjeu stratégique, c'est pourquoi en termes de démocratie, de liberté, on a détourné le regard parce qu'on ne voulait pas que vous basculez vers le régime soviétique. Maintenant ça c'est fini, maintenant il faut aller à la démocratie, ça c'est la première vague démocratique. Aujourd'hui on va assister à la deuxième vague démocratique, au développement de la deuxième vague démocratique. Les gens ne se rendent pas compte, mais la deuxième vague démocratique est née au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, pour chasser Blaise Compaoré, les causes endogènes l'ont emporté sur des causes exogènes. Ce sont les Burkinabés qui se sont mobilisés pour chasser Blaise Compaoré. Aujourd'hui, quand on voit Mali, Guinée, Niger, les causes endogènes, la deuxième vague, les causes endogènes vont l'emporter sur les causes exogènes. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont imposer le retour de la démocratie. Parce que l'exemple du Sénégal prouve, contrairement aux idées culturalistes, qu'on peut très bien être un pays africain, musulman, et être une très grande démocratie. Et c'est pourquoi l'État de l'AES n'apprécie pas particulièrement le Sénégal. Parce que l'exemple du Sénégal déconstruit tout leur agenda idéologique.
Que ces soulèvements populaires ne sont pas allés jusqu'au bout de leur processus, étant donné que ce sont les militaires eux-mêmes qui ont récupéré la fin du combat pour s'installer au
mais
pouvoir.
Mais l'histoire est dans la longue durée. C'est pourquoi j'ai dit quand l'histoire est dans la longue durée. Tu sais, les régimes militaires, là, c'est comme de la musique. Les régimes militaires ne peuvent être qu'une sorte d'intermède musical sur le plan militaire. Ça ne peut être qu'une toute petite parenthèse. La vague démocratique va revenir.
Une sorte de vase clos.
Non, la vague démocratique va revenir, elle va être beaucoup plus violente. Oui. Et vous savez pourquoi la vague démocratique va revenir inévitablement? Pourquoi les régimes militaires là ne sont que des intermèdes et des parenthèses? Oui. Parce que qu'est-ce qui justifie les coups d'État? Les putschistes justifient leur coup d'État pour deux raisons. Un, la sécurité. les civils ne savent pas du compte la sécurité. On a vu dans tous ces pays-là que la sécurité s'est... On a vu dans tous ces pays-là la sécurité s'est dégradée. Deuxièmement, la bonne gouvernance et l'économie. On se voit que ça n'a pas progressé. Regarde notre voisin du Mali. Aujourd'hui, au Mali, on te dit que les gens ont 6 heures d'exercice par jour.
Est-ce que... Pareil en Guinée aussi.
Ouais. Donc, ce qui fait le fondement même, la légitimité des régimes militaires, c'est ça aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. Parce que les gens justifient leur putsch par la situation sécuritaire. On a un président civil élu démocratiquement, mais les djihadistes sont là, ils avancent. Donc, on fait un coup d'État. On se rend compte dans ces pays-là que la situation sécuritaire n'évolue pas. Et on se rend compte aussi, pire encore, que la situation économique n'évolue pas. Et ce qui fait que la vague démocratique va fatalement venir et balayer tous ces régimes militaires et putschistes. Mais en attendant, ces gens-là cherchent à légitimer leur forfaiture par l'idéologie et la propagande. C'est quoi la propagande? Nous sommes des panafricanistes, nous sommes des souverainistes. Le souverainisme, c'est aujourd'hui ce qu'est le Sénégal.
Un pays... Et pendant ce temps, la situation économique et sécuritaire se détériore
mais bien sûr, jour en jour. Mais le souverainisme, c'est ce qui se passe au Sénégal, élire démocratiquement un président. Oui. Le souverainisme, c'est ça le souverainisme. Ça veut dire que les gens nous ramènent dans les années 60, le combat sur... C'est quoi le souverainisme? Le Sénégal est une république, est une démocratie. Les Sénégalais, de façon souveraine, ont élu Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ça le souverainisme. Maintenant, l'autre forme de souverainisme, c'est de la propagande et de l'idéologie. Mais quand même, nous sommes des Africains. On n'a pas envie que le panafricanisme dont nous parlons soit dirigé par des putschistes. Nous voulons un panafricanisme démocratique. Et quand on parle de panafricanisme, le Sénégal est très bien placé sur les questions de panafricanisme. Et c'est pourquoi j'en profite pour dire qu'il faut que sur les questions internationales, que le Sénégal revienne dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en dehors de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a disparu des radars sur les questions internationales. Regarde ce qui se passe en Haïti. Regarde ce qui se passe à Haïti. Quand même, et j'ai toujours dit que Haïti incarne pour le monde noir ce que Israël incarne pour les Juifs. Haïti, c'est l'âme du monde noir. Et ce qui se passe à Haïti est inacceptable. Et que c'est dommage qu'on n'entende pas la voix du Sénégal et que ce soit le Kenyan qui est de l'autre côté du continent qui s'occupe de la question haïtienne. Haïti, c'est en face de chez nous. Nous, tous qui avons été au CECI, nous avons un prof haïtien, Justin Lemoine. Jacqueline Lemoine a longtemps fait partie du paysage intellectuel et culturel sénégalais. Donc sur ces grandes questions-là, le Sénégal, le pays de Senghor, le champ de la négritude ne peut pas ne pas se prononcer sur des questions qui touchent à Haïti. Parce que comme je disais tantôt, Haïti est au monde noir, c'est qu'Israël est au monde juif. Oui. Et sur ces questions-là, il faut que le Sénégal revienne au centre du jeu mondial. Oui.
Comme il l'avait fait au lendemain de ce terrible tremblement de terre en 2010,
oui.
Le président Wade avait accueilli ici des dizaines d'étudiants haïtiens.
Mais ça c'est Ablaye Wade. Ablaye Wade, Senghor, c'est des hommes de culture. C'est des hommes de culture qui comprennent la place du Sénégal, les enjeux du Sénégal, le truc de la négritude. Ablaye Wade avait très bien fait à l'époque, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, de montrer que le Sénégal, le pays qui est en face, le pays d'où peut-être quelques Haïtiens sont partis, et puis le Sénégal est au centre de ça. Il faut que les Africains et les Noirs en général se penchent sur le sort de trois pays qui ne peuvent pas les laisser indifférents. Haïti, le Libéria et l'Éthiopie. Ce sont des pays très importants pour le monde noir. Et quand on est Sénégalais, le pays de Senghor, qui a été le champ de la négritude, et je pense que notre diplomatie devrait s'intéresser davantage à ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas être le pays de Senghor, le champ de la négritude, et aujourd'hui ne pas se prononcer.
Il y a aussi la situation qui prévaut au Soudan, qui est catastrophique. En quelques mois, il y a eu plus de 10 millions de déplacés.
Oui, mais ça, c'est des questions africaines. Moi, je me rappelle avoir été au Soudan du Sud avec le président Macky Sall pour éviter que la guerre ne reprenne au Soudan. Et c'est ça qui va marquer. Et c'est ça aussi le Sénégal. Il faut que le Sénégal tienne son rang. Quand nous avons été au Soudan du Sud, le président du Soudan, Salva Kiir, a dit les deux Sénégalais les plus connus au Soudan du Sud. Et puis... Il a dit les deux Sénégalais les plus connus au Soudan du Sud, c'est Sadio Mané
et Macky Sall.
Non, pas Macky Sall, et Cheikh Anta Diop. Et c'est ça le Sénégal. Les gens du Sud, John Garang, qui a dirigé la rébellion au Soudan, après avoir lu Cheikh Anta Diop, a dit que après avoir dit Cheikh Atta Diop, Nation Nègre de Culture, je me suis rendu compte que toute l'idéologie arabe qu'on avait inculquée, que le Soudan du Sud n'était qu'un réservoir d'esclaves, et qu'aujourd'hui, après avoir dit Cheikh Atta Diop, j'ai pris conscience et j'ai pris l'initiative historique. Et c'est pourquoi les deux Sénégalais les plus connus au Soudan du Sud, c'est Sadio Mané et Cheikh Atta Diop.
Alors, aujourd'hui, le Comité national du Rassemblement pour le Développement, le CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, après la destitution d'Alpha Condé, devait organiser des élections transparentes et inclusives d'ici la fin de l'année, mais coup de théâtre, les autorités ont indiqué qu'il n'y aura pas de scrutin cette année, sauf un référendum constitutionnel, contrairement à ce qu'ils avaient dit par le passé. S'agit-il d'une fuite en avant et d'une volonté de s'éterniser au pouvoir?
Non, mais c'est une volonté de s'éterniser au pouvoir, mais c'est ça qui est intéressant. Dans les pays de l'État du Sahel et la Guinée, mais personne ne connaît la date des élections. Et c'est pourquoi je parle de forfaiture. Ces gens-là ne croient pas au panafricanisme, ces gens-là ne croient pas au souverainisme. Ces gens-là ont fait des coups d'État et cherchent à légitimer leur pouvoir par l'idéologie. Au Mali, Assimi Goïta est au pouvoir depuis 5 ans et puis le pseudo-dialogue national lui a encore donné un truc de 5 ans. Donc le monsieur peut rester 10 ans au pouvoir.
Pareil au Burkina Faso.
Pareil au Burkina. Donc ces pays-là ne doivent pas être des références pour nous. Par contre, le Sénégal doit jouer son rôle parce que les populations de ces pays-là prennent, et les élites de ces pays-là prennent le Sénégal pour référence. Quand même, chez nous, l'alternance est la respiration naturelle de la démocratie. L'alternance et la respiration de la démocratie. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que le Sénégal a un grand rôle à jouer. Le Sénégal a un grand rôle à jouer en leur parlant et puis en leur disant qu'il faut revenir à la démocratie, il faut faire confiance à la démocratie, mais sans pour autant donner une leçon. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, elle est intéressante, la dichotomie entre le président de la République et son premier ministre. Le président de la République est parti en Mauritanie, qui est une démocratie. Le président de la République est parti en Gambie. Le président de la République est parti en Guinée-Bissau. Alors que son premier ministre, lui, enfin, voulait partir visiter les États de l'Alliance des États du Sahel. Mais probablement, c'est des questions d'agenda. Peut-être, probablement, il ira un jour. Sauf si, entre-temps, le bon sens est revenu. Sauf si, entre-temps, il a compris que lui, il est premier ministre du Sénégal et que le Sénégal a un rang et un statut à défendre et qu'il a renoncé à cette aventure qu'il voulait faire dans les États du Sahel.
Alors très bien Yorodia, il nous reste quelques minutes, nous allons aller vite. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont mis en place l'Alliance des États du Sahel depuis septembre dernier et sont sur le point de lancer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel au terme de la réunion des ministres des Affaires étrangères de ces trois pays à Niamey il y a de cela quelques semaines. C'est pour concurrencer la CEDEAO qui est la principale organisation d'intégration sous-régionale. Justement, quel rôle peut et doit jouer le Sénégal pour rabibocher les deux positions, la CAES, la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO de l'autre côté?
Non, le rôle du Sénégal, avant tout, c'est de comprendre dans la perspective historique que ces histoires d'États du Sahel ne peuvent être que de petites parenthèses dans l'histoire. Et je suis sûr que le jour où les régimes militaires partiront, le jour où le pouvoir civil et démocratique reviendra, à la CEDEAO. Donc c'est la CEDEAO qui est une sorte de... C'est la CEDEAO qui est la constante. Ces histoires d'État du Sahel, de Confédération d'État du Sahel, ne sont que des trucs cosmétiques et conjoncturels. Et comme je dis, c'est de l'idéologie pour légitimer une forfaiture. À partir du moment où la forfaiture disparaîtra, et puis la normalité va revenir, il est inévitable que le Mali, le Niger, le Burkina reviennent à la CEDEAO. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui oppose ces pays à la CEDEAO? Mais la CEDEAO a raison. Nous sommes une organisation et il y a des règles. Et l'une des règles, c'est qu'il faut empêcher les coups d'État.
Oui.
Vous avez fait des coups d'État, on vous donne des transitions pour que vous reveniez au régime normal. Et ces gens-là reviennent au régime normal. Ces gens-là reviennent au régime normal quand la parenthèse militaire, quand l'intermède militaire qui ne peut être que transitoire va être fermé. Et parce que c'est connu, des régimes comme ça ont toujours besoin d'ennemis extérieurs pour éviter que les gens ne se focalisent sur la question intérieure. Et c'est pourquoi ces régimes-là, comme la Corée du Nord, et puis cherchent toujours un ennemi extérieur pour éviter aux gens de se poser la question sur la question intérieure. Aujourd'hui, au Mali, les gens se posent des questions sur la question intérieure. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, l'absence d'électricité, les gens commencent à se poser des questions intérieures. Et c'est pourquoi je disais, dans la deuxième vague, partie du Burkina avec la chute de Blaise Compaoré, les causes endogènes vont être beaucoup plus importantes que les causes exogènes. La première vague démocratique partie de la boule, les causes étaient exogènes, ça venait de l'étranger. Mais la deuxième vague qui va se prépare, qui va venir, les causes endogènes vont l'emporter. Parce que les Maliens, eux, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin d'industrie, ils ont besoin de développement. Et aujourd'hui, on se rend compte que les militaires qui leur avaient promis un renforcement de la situation sécuritaire, comme au Burkina, que ce qui font la légitimité des militaires n'existe plus. Parce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée et la situation économique ne s'est pas améliorée. Et c'est pourquoi ces gens-là sont dans une sorte de fuite en avant idéologique.
Docteur Yorodia, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Si vous aviez un message à donner aux nouvelles autorités, notamment à celles qui ont en gestion la diplomatie sénégalaise, ce serait quoi?
Ce serait jeter à la poubelle ce que vous appelez le panafricanisme de gauche qui n'a aucun sens. Ce sont ces pays-là qui prennent le Sénégal comme modèle et nous, on ne veut pas prendre comme modèle des régimes putschistes. Et l'autre message, c'est de dire que la diplomatie est une chose trop sérieuse pour être laissée à des amateurs. On a une machine diplomatique. Je donne l'exemple de Djiboka. Djiboka m'a dit un jour que le ministère des Affaires étrangères est le seul ministère et l'un des rares ministères où on n'entre pas par effraction. Et il avait ajouté, c'est le seul ministère où vous avez des gens compétents, brillants et discrets. Donc cet amateurisme-là, il ne faut pas que ça arrive aux affaires étrangères. Il ne faut pas qu'on nous amène...
La diplomatie n'est pas du bruit.
Et puis ce n'est pas de l'idéologie. Par exemple, quand tu fais un séminaire, les nouvelles autorités, tu fais venir Ngaï Demba Touré et tu mets devant des diplomates qui ont 30 ans, quand même, et tu mets Pierre Saré. La diplomatie est une affaire régalienne. Ce n'est pas une affaire d'ONG, ce n'est pas une affaire d'amateurisme. Et puis, comme je dis souvent, les régimes passent. La diplomatie, la politique extérieure du Sénégal demeure. Donc, la politique extérieure du Sénégal est entre de très bonnes mains. Et puis, comme je dis, le président de la République a fait les meilleurs choix pour ses premières sorties. Il ne faut pas qu'on nous ramène dans l'étude de panafricanisme de gauche. Ce n'est pas de l'idéologie. Il ne faut pas qu'on nous tire par le bas. Ce sont les pays qui sont dans le panafricanisme de gauche qui veulent prendre le Sénégal comme modèle. Mais l'inverse n'est pas vrai.
Docteur Yorodia, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes ancien ministre politologue, ancien porte-parole du président de la République et coordinateur de la communication de la présidence de la République. Merci à vous également, chers fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur e-Radio. Au revoir.